Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Voici l'émission qui va vous permettre de visiter la France ou qui vous permet de visiter la France tous les samedis sur Europe 1 à travers 4 sites originaux. C'est en tout cas notre souhait et dont vous avez probablement très peu entendu parler. Dans un instant, démonstration. On vous proposera de visiter dans l'Indre, anciennement le Berry, un petit château caractéristique de la région qui appartenait à l'une de nos plus grandes écrivaines, George Sand. Tout de suite après, un autre site original dans les Pyrénées-Atlantiques. On fabrique là-bas dans un atelier des petites cloches qui sont destinées aux animaux. C'est un endroit unique en France, celui-là. Après cela, dans la dernière partie de notre émission, comme d'habitude, nous vous inviterons à une expérience en plein air sur un... Alors, c'est un espace, c'est gigantesque, où sont dispersées, écoutez bien, plus de 200 œuvres originales, uniques, 200 œuvres donc artistiques, à travers la forêt. C'est presque une sorte d'utopie. Mais pour commencer avec Gavin Clément-Terruis, chasseur de sites du Guide du Routard, on vous propose le musée des Amériques. Ça se trouve où, à votre avis, le musée des Amériques? Ben, ça se trouve dans le Gers, voilà, à Auch. Mais pourquoi là? Mais qu'est-ce qu'on y découvre, Gavin? Bonjour.
Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien oui, à Auch, on découvre là, tout
vous
simplement.
Vous dites Auch, vous?
Je dis Auch.
On dit Auch ou on dit Auch?
Non. Ça fait combien de jours que vous me dites Auch, Auch.
Ça doit être entre les deux, non?
Allez, à Auch. Dans le Gers, on découvre la deuxième collection d'art précolombien, William, après le musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Rien que ça, vous vous rendez compte? On trouve là-bas des tableaux qui ont été missionnés par les mercenaires franciscains présents 20 ans après la conquête de Cortés.
Tout mais le musée, il est récent?
Non, pas du tout. Il a été créé en 1793 et il occupe l'ancien couvent des Jacobins du 15e siècle.
Bon, alors justement, il nous a intéressés parce qu'il est très riche et il mérite votre visite. Nous sommes en ligne avec Fabien Ferrer-Joly, qui est le conservateur précisément de ce musée. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Alors, comment ça se fait qu'un musée de ce genre se situe à Auch, à l'origine? Il était fait pour quoi et pour qui?
À l'origine, voilà, c'est un musée qui est très ancien, puisqu'il date de la Révolution française. Et puis, petit à petit, 1793, c'est même le second musée créé après le Louvre. Donc, on n'a pas connu tout à fait le même parcours, mais voilà, donc c'est quand même un musée ancien. Mais c'est des collections précolombiennes, donc c'est un peu particulier dans le Gers.
Oui. Voilà, donc à l'origine, c'était un musée qui parlait de quoi? De la région?
Non, au tout début, c'était un musée vraiment pour enseigner l'art. C'est-à-dire, on recevait des tableaux, des sculptures provenant de Paris. C'est un peu comme ça que se sont constitués beaucoup de musées en France. Et puis après, il s'est spécialisé avec des collections locales, de l'archéologie, des peintures, voilà.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir des œuvres qui sont issues de cultures préhispaniques. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien compris, c'était avant les conquistadors?
Voilà, tout à fait. C'est toutes les civilisations qui se sont succédées avant la conquête, avant la découverte des Espagnols. Pseudo-découverte, puisqu'on sait aujourd'hui maintenant que ce sont les Vikings qui ont découvert l'Amérique.
Oui. Et puis les autres ont dit découverte comme si ce sont des envahisseurs, tout simplement.
Exactement, voilà, tout à fait. Ça dépend de comment on se situe.
Du coup, ça concerne quel pays préhispanique, donc?
On a des collections qui proviennent donc à la fois donc depuis le Mexique jusqu'au sud du Pérou, donc vraiment ce qu'on appelle les Amériques, donc la Mésoamérique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.
Ah. Est-ce que vous croyez qu'il y a un lien avec ces Français du Sud-Ouest, je pense aux Basques notamment, qui sont très nombreux, partis tenter l'aventure de l'autre côté de l'Atlantique, un lien et avec le musée ou pas du tout?
Oui, pas avec les Basques, mais en tout cas, donc il y a eu probablement donc à la suite de la crise économique, deuxième moitié du 19e siècle, beaucoup de départs, et notamment donc des Gersois, beaucoup sont partis, et l'un d'entre eux qui s'appelait donc Guillaume Pujos est parti lui plutôt au Chili. Là, on se situe vers les années 1870-80. Et c'est lui qui s'est intéressé donc à l'art précolombien, à l'art préhispanique. Voilà. Qui a rapporté les premiers objets donc à Auch à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle.
Alors, tout à l'heure avec Gavin, on parlait d'un tableau impressionnant, paraît-il, qui reprend les... Alors, c'est ça qui est intéressant, les techniques aztèques, comment ils le faisaient et eux-mêmes à l'époque, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait à la même période en Europe. De quoi s'agit-il?
Bah, tout à fait, c'est donc vraiment un tableau de plumes, donc ça reprend une technique, la plumasserie aztèque, mais au service de l'art chrétien, donc c'est vraiment une œuvre extrêmement métissée, puisqu'en plus elle est très ancienne, elle date de 1539, donc on est 20 ans après l'arrivée de Cortés donc au Mexique, oui. Donc c'est tout au tout début, et donc c'est une scène qui représente la messe de Saint Grégoire, mais qui mélange à la fois des symbolismes, des symboliques aztèques et des symboliques chrétiennes. Donc c'est vraiment une œuvre extrêmement métissée et très intéressante pour ça.
Je vous parlais tout à l'heure pour savoir s'il y avait des œuvres qui proviennent de la région. Et par exemple, parce que c'est une région où il y a des vestiges de la période gallo-romaine pas loin de chez vous. Il y a ça dans le musée ou pas du tout ?
Ah oui, bien sûr, parce que voilà, donc on est un peu, je dirais, un musée bicéphale, moitié américain, moitié local, oui. Et sur les collections locales, voilà, on a beaucoup de collections donc gallo-romaines, puisque la ville d'Auch, Augusta Oscorum, était une grande ville gallo-romaine, mais aussi donc des collections médiévales, des collections donc après donc plus classiques du XVIIIe siècle, donc vraiment et jusqu'à la période, enfin jusqu'à non pas la période contemporaine, mais jusqu'au XIXe siècle, avec des collections vraiment gasconnes de traditions populaires.
Ah d'accord. Comment s'appelait en latin Augusta?
Augusta Oscorum.
Oscorum.
Donc en référence à Auguste, puisque c'était donc une cité donc reconnue et
Au temps de l'empereur voilà.
Auguste,
si j'ai bien suivi. Pour voir autant de choses, il faut quoi ? Il faut bien 2 heures, non ?
Ah oui, il faut bien 2 heures, puisque donc on a 3 niveaux, plus de 1000 m² donc d'exposition permanente. Donc voilà, donc il faut du temps, mais on peut le découvrir de façon donc assez agréable. On bénéficie d'une ville qui est très agréable, donc voilà, les touristes peuvent prendre leur temps, revenir avec le même billet. Enfin, voilà, il y a beaucoup de possibilités, de facilités qui sont accordées aux visiteurs.
Alors, il y a des expositions temporaines qui se succèdent ?
Oui, tout à fait. Donc là, justement, on a terminé la dernière exposition sur l'archéologie, les 30 ans de découverte à Auch. Et là, on prépare une exposition sur un peintre local, Jean-Louis Rouméguer, qui a beaucoup peint la lumière. On l'appelait le peintre de la lumière. Donc là, on se situe au début du XXe siècle. Et donc, on fait une grande rétrospective sur son œuvre, là, donc à partir du mois d'avril.
Merci, Fabien, pour cette visite rapide. Merci, monsieur le conservateur.
Merci
ça
à
se
vous.
Passe à Auch. Bon après-midi. Au revoir.
Au revoir.
Alors, Gavin, on va à Auch. Vous avez dit, il a dit Auch, Fabien.
On a dit Auch, on a dit Auch.
Comment ça se passe pour visiter ?
Eh bien, pour visiter le musée des Amériques d'Auch, c'est ouvert tous les jours en ce moment, de 10h à 12h15 et de 14h à 17h15. Et c'est jusqu'à 18h quand ce sera la haute saison. Alors, notez d'ailleurs que le musée est labellisé tourisme et handicap pour les 4 handicaps, moteur, visuel, auditif, cognitif.
Ah bon ?
Et donc, des dispositifs sont à disposition de ces visiteurs s'ils le souhaitent. Alors, il vous en coûte si vous visitez le musée d'Auch, 6€ pour un adulte et c'est gratuit pour les moins de 18 ans et notamment gratuit pour tous le premier week-end de chaque mois.
D'accord.
L'Amérique, gratuit le premier week-end de chaque mois, c'est sympa, William.
Oui, c'est pas cher. À Auch, on peut dormir, manger dans le coin, évidemment.
Bien sûr. Alors, on va pouvoir aller dormir dans les chambres d'hôtes. Le Gavachon, là, c'est à 7 km d'Auch. Il faut compter 85€ pour une nuit. Alors, ce qui est sympa, c'est que là, c'est sur un ancien domaine viticole. On est en pleine campagne. Les proprios sont anglo-français. Allez, monsieur, avant de cultiver les céréales bio, il était architecte. Et ça se sent, vous le verrez. Vous allez dormir dans l'ancien grenier. Vous avez des belles chambres. Vous allez aussi passer un peu de temps dans l'ancien pressoir qui a été transformé en jacuzzi. Rien ne se perd, tout se transforme en quelque sorte au Gavachon. C'est à Le Boulin et je mets toutes les coordonnées bien sûr sur europe1.fr.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Dans cette émission, vous le savez peut-être déjà, nous avons à cœur de vous présenter des sites où vous pourrez aller le temps d'une visite, redécouvrir un lieu de patrimoine. C'est le cas maintenant avec un petit château où vécut l'une des plus grandes écrivaines françaises. Elle a fait de sa région d'ailleurs le cadre de nombreuses de ses œuvres. Pour être précis, Gavitz, nous sommes où ?
Alors, William, je vous emmène visiter la maison de George Sand. C'est dans l'Indre, à Nohant précisément. C'est un petit château. On est à 35 km au sud-est de Châteauroux. Mmh. C'est là que l'auteur de La Petite Fadette, souvenez-vous, ou alors de La Mare au Diable, on a tous lu ça à l'école, je me souviens. C'est là qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie.
C'est vrai que c'était plutôt scolaire, ce genre de...
Puis ça reste une lecture agréable pour les enfants, leur faire découvrir la langue française, j'ai envie de dire classique.
Oui, pure.
C'est très beau.
Elle était originaire de la région ou pas ?
Alors, en fait, elle était issue du côté paternel d'une famille noble et du côté de sa mère d'une famille plus modeste, là, d'oiseleur parisien. J'ai bien aimé cette origine. Ouais, ah. Il vendait des oiseaux. C'est beau, non ? Et alors, après la mort de son père, eh ben, elle est venue chez sa grand-mère, à Nohant. Sa grand-mère qui était quand même la fille du maréchal de Saxe.
Oh.
Et, ouais. Et alors, Georges Sand, elle est devenue célèbre au début des années 1830. Ouais. Eh ben, il passait essentiellement de grands étés. C'est là où elle vient. Et ensuite, elle va s'y fixer un peu plus chaque année. Et elle va y venir de plus en plus à partir de 1840.
D'accord. Alors, c'était un personnage en couleur, il faut le rappeler.
Ouais, ça, c'est moins qu'on puisse dire. C'est l'une des seules femmes écrivaines reconnues à l'époque romantique. Elle s'appelait de son vrai nom Aurore Lucile Dupin.
Aurore Dupin, oui.
Ouais. Et pour être publiée, elle a usé du patronyme de son ancien ami, amant, que dis-je, je ne sais pas, Jules Sandeau. Elle n'a gardé que le Sand. Elle s'habille en homme dans les salons littéraires. Il y a des photos d'elle qu'on voit habillée.
Alors, elle a justifié ça ou pas à l'époque?
C'était souvent... Les salons étaient acceptés, ou acceptés surtout des hommes, donc elle voulait avoir sa place et donc elle s'imposait.
C'est ça, c'est une sorte de provocation.
C'est ça.
Ah ben, puisque vous n'acceptez pas les femmes, eh ben je m'habille en homme.
Exactement, on la voit fumer comme ça en public dans ces salons-là. À Paris, elle a des aventures avec Alfred de Musset, elle discute un peu d'égal à égal avec Gustave Flaubert, Honoré de Balzac aussi, ou encore le peintre Eugène Delacroix, qui enseignera d'ailleurs la peinture à son fils, le petit Maurice Sand.
Mais c'est vrai qu'elle fréquentait pas n'importe. Elle faisait partie de l'élite artistique.
Oui, l'intelligentsia, j'ai envie de dire, de l'époque. C'est ça. Et alors, elle a surtout été connue pour sa grande histoire d'amour avec
Frédéric
Chopin.
Oui, avec Chopin, le pianiste, bien sûr.
Et qui venait d'ailleurs à Nohant. Il a passé là-bas cet été. Cet été, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est là qu'ils vivaient ensemble, en quelque sorte. Il a composé là, d'ailleurs, à peu près les deux tiers de son œuvre. Georges Sand faisait venir le piano. Un piano nouveau, un Pleyel surtout. Tous les ans, elle faisait venir un piano pour qu'il compose tous les étés, qu'il soit bien là-haut au premier étage. Et il venait ici et pianotait. Et il a composé une très belle mélodie là.
Alors, c'est pas pour le piano hein, qu'on vient chez Georges Sand cette fois.
Non, c'est pour un autre art, l'art théâtral. Il y avait deux théâtres ce château.
Deux théâtres, des petits, ce qu'on appelle des petits théâtres.
Alors il y en avait un petit, matérialisé par un castelet pour mettre en scène des marionnettes. Ouais. Et il y en avait un grand, comprenant une scène, un rideau, des coulisses, des décors, un vrai théâtre. Quoi.
Mais elle écrivait des scènes ou des pièces pour son théâtre-là ou pas nécessairement?
Alors souvent, elle faisait jouer ses personnages. Pour les représenter, elle prenait ses personnages et elle faisait jouer ses pièces.
Comme marionnettiste, alors.
Exactement. Elle faisait ça avec son fils qui peignait des décors. On a vu, il a fait ça, il a appris avec Eugène Delacroix. Ça devait être assez joli quand même.
Ah, c'est sympa. C'est surtout bien d'avoir comme parent.
Pour à dessiner.
Qu'est-ce qui vous a appelé Delacroix? Pas mal. Ça mérite qu'on aille faire un tour. Nous sommes en ligne avec Vinciane Essinger, guide au domaine de Nohant. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le décor du grand théâtre de Georges Sand. Alors, vous venez de le rénover, mais il avait bien vécu. Hein, depuis le temps, il méritait quand même quelques travaux, c'est ça?
Oui. En fait, sur la scène du grand théâtre de Nohant, chez Georges Sand, on voyait un décor depuis toujours. Mmh. Un décor qui était peut-être même installé à son époque et qui était resté figé sur la scène. Et voilà, et c'était pas forcément un décor qui présentait beaucoup d'intérêt parce que c'était un espèce de puzzle mal recomposé.
Mmh.
Et vu qu'on a plein de bouts de puzzle de décors dans les réserves de la maison, l'idée c'était d'enlever le vieux que tout le monde a vu depuis 60 ans et d'en mettre un qui présentait une unité qui était totalement inédit, que personne n'a jamais vu depuis que Georges Sand l'a fait installer.
D'accord.
Et le chantier il a consisté à faire ça.
D'accord. Donc, quand on va visiter, c'est plutôt maintenant sur ce nouveau décor-là, de ce théâtre-là, que vous insistez, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il a de spécial, ce nouveau décor?
Déjà, il est magnifique. Et elle l'a fait faire père. Alors, il y a son fils qui contribue et des copains à Maurice, parce que, comme vous l'avez précisé, ils ont été formés à la peinture par Delacroix. Et en même temps, elle a fait venir à Nohant les décorateurs professionnels d'un théâtre parisien. Ah. Et en fait, ils ont travaillé comme des fous pendant un mois et demi. Ils ont créé 11 décors en tout, qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Et elle, elle le dit elle-même au directeur du théâtre, elle le remercie, elle lui dit « on va les montrer aux étrangers comme des tableaux de peinture ». Et c'est vrai qu'il a une esthétique vraiment impressionnante, il est magnifique. Et puis, il est surtout inédit, quoi. Donc, pour nous, c'est un événement, quand même. D'accord. On est super heureux de le montrer et de raconter l'histoire qu'il raconte.
D'accord. Et il y a du monde pour assister à... Parce que, quand on vient, on assiste quoi ? Aux pièces que Georges Sand avait écrites pour ce petit théâtre-là ou pour le grand théâtre, oui ?
Ben non, en fait on visite sa maison. Donc, le théâtre, il est dans la demeure. Il fait partie, évidemment, du circuit de visite. C'est même un endroit assez attendu. Hein. Les gens aiment bien parce que c'est étonnant. Vous avez un théâtre de marionnettes d'un côté, le grand théâtre de l'autre. Donc c'est vrai que c'est assez curieux comme agencement. Et donc on raconte un peu comment elle a développé ces deux pratiques théâtrales. Mais bon, ils étaient au bout du monde à l'époque. Hein. Vous savez, on est loin de tout, même encore un peu. Du coup, les soirées d'hiver étaient très longues et en fait, ils font du théâtre, de société, comme on dit, alors, parce que ça les distrait.
Mais Vinciane, qui assistait à ça ? Des copains, des voisins que, c'est fait pour qui à l'époque ?
C'est ça, elle fait venir les copains Berrichon qui habitent alentour, des voisins à elle. Des fois, il y a les familles du village qui assistent. C'est pas systématique, mais parfois. Et puis après, c'est les artistes parisiens qui sont là au bon moment. Les directeurs de théâtre auxquels elle vend ses pièces, parce que, vous voyez, elle est maligne. Beaucoup de comédiens professionnels, parce que vu que Georges Sand a beaucoup côtoyé ce milieu, elle a beaucoup aimé les comédiens, cette femme. Elle est assez admirative de leur talent. Du coup, elle s'est entourée aussi de comédiens pros. Et il y avait des fois 50-60 spectateurs quand même, parce que la salle de spectacle, c'était bien organisé.
Mais il faut les loger, tous ces gars-là.
Eh oui, mais la salle de spectacle est grande, en fait, et il y avait des gradins, donc les gens étaient installés sur des gradins, et sur la scène telle qu'elle existe encore dans la maison, ils ont joué 80 pièces, à peu près, en 20 ans.
Et après, les copains de Paris, elles allaient dormir chez l'habitant, quoi.
Ben non, elle les loge sur place. Vous savez, la maison est grande, il y a des chambres d'invités. Ils ont fait du théâtre comme des fous furieux. Ils ont adoré ça. Ils se sont vraiment amusés. Et nous,
drôle.
On a la chance.
On n'imagine pas Georges Sand en train de faire ça. Au fond, c'était une occupation qu'elle adorait, ça.
Oui, mais en même temps, c'est vraiment l'occupation un peu par excellence, parce qu'il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télé, le cinéma, c'est pas encore l'heure. Et donc, le théâtre, c'est important, parce que ça concerne un peu tous les publics, il y en a pour tous les goûts. Même les gens modestes, ils pouvaient se payer le théâtre, alors qu'aller à l'opéra ou écouter Chopin en concert, quand vous n'avez pas d'argent, vous n'y allez pas. Donc, le théâtre, c'est un côté démocratique, et c'est aussi pour ça qu'elle l'a aimé. Évidemment.
Oui, mais c'est un théâtre de marionnettes. Et pourquoi elle avait ce penchant pour les marionnettes ? C'est drôle, ça.
Les marionnettes, le théâtre des marionnettes, c'est au départ l'idée de son fils. Après, c'est pareil, les marionnettes, ça prend une ampleur folle. Et elle, ça leur permet d'être un peu irrévérencieux. Ah. Ils font beaucoup de satire, vous voyez, ça tire vraiment à la caricature. Puis ils adorent la Commedia dell'arte, Molière s'est beaucoup inspiré. C'était vraiment dans l'air du temps et ils font des trucs beaucoup, vous savez, avec les quiproquos, beaucoup de choses un peu bouffonnes. Et il y a un côté très irrévérencieux, un côté caricatural. Et je pense que c'était aussi dans l'air du temps, à l'époque.
Alors, on disait avec Gavin qu'elle avait cette allure de temps en temps assez masculine. Elle s'habillait en homme, il n'y a pas d'ambiguïté. Elle faisait ça un peu par provocation, non ?
C'est-à-dire qu'elle a porté le vêtement masculin, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, alors de manière très anecdotique en réalité. C'est vrai que l'essentiel de sa vie, Georges Sand, c'est une grande fashion victime de la mode féminine. Mais quand elle est au début de sa carrière à Paris, c'était pas évident pour elle, en tant que femme, d'arriver à se positionner en tant qu'artiste dans un monde hyper macho. elle en a pris un peu plein les dents quand même, vraiment. Elle a été vraiment critiquée, montrée du doigt. C'est très compliqué de s'affirmer en tant qu'artiste. Et le vêtement masculin, finalement, lui donne une espèce
c'était pratique.
Une espèce de position un peu plus assumée. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Donc, voilà.
Alors, il n'y a pas que le théâtre à voir hein, dans la maison de Georges Sand. Il faut le signaler peut-être aussi. Vous l'avez dit, elle est grande.
En fait, c'est un Bah, c'est un cadre de vie, donc on voit la cuisine, on voit la salle à manger, le salon, les chambres à l'étage, le théâtre, on voit les appartements de chacun. Voilà, c'est une maison qu'elle a investie, dans laquelle elle a vécu une grande partie de sa vie.
Mais il y a des objets qui sont dans le jus, comme à l'époque, parce que c'est une certaine manière de voir comment les Berrichons pouvaient vivre, peut-être, à cette époque-là.
Ah bah elle est vachement dans son jus la maison.
Ah, hein. Vachement,
oui, oui. Alors oui, c'est une maison qui a été occupée uniquement par les gens de sa famille et après elle a été donnée à l'État. Donc c'est un monument qui appartient au Centre des Monuments Nationaux. Mm-hmm. Et en fait, les décors sont restés en place, les meubles, les objets. Donc on a une belle collection d'objets ayant D'accord. appartenu à George Sand et voilà, et ça raconte sa manière de vivre.
Très bien. Alors vous dites que les objets sont restés en place, elle aussi d'ailleurs, puisque sa tombe est dans la propriété, dans le jardin.
Oui, elle est morte à Nohant, elle est morte dans sa maison et elle a été enterrée dans un cimetière privé qu'elle avait voulu, pour une histoire un peu triste qu'on peut raconter aux gens d'ailleurs.
D'accord.
Mais elle est enterrée dans son jardin avec tous les membres de sa famille.
Très bien, merci pour la visite Vinciane.
Je vous en prie.
Bon après-midi, au revoir.
Vous aussi, au revoir.
Alors Gavine, comment fait-on pour aller voir ce petit théâtre demain et tout le reste, bien sûr?
Alors, on pourra faire une petite visite thématique sur le lever de rideau du nouveau décor du Grand Théâtre, son histoire, sa création avec Vinciane peut-être ou d'autres guides. Ce sera le 20 et le 26 février à 15h30, ça coûte 6,50 €. Mais pour le reste de la demeure, on peut venir aussi jusqu'au 31 mars de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Là, c'est ouvert tous les jours, ça coûte 8 € et c'est gratuit pour les moins de 18 ans.
Nous sommes dans le Berry, on peut... maintenant, non, c'est pas isolé, comme le disait. Il y a des restaurants, on peut dormir.
Bien entendu, on pourra aller, bien sûr, à l'auberge La Petite Fadette, du nom de l'héroïne de George Sand. C'est à Nohant, bien sûr, sur la place du village. Il y a des chambres au calme, face à l'église et au château. Là, on pourra se croire à l'époque de George. Et il y a certaines qui ont même des chambres avec lit à baldaquin. J'aime bien, c'est très, très, très romantique. Et il y a un petit resto, si vous le souhaitez, assez chic, où l'on passe des airs de Chopin, bien sûr.
C'est obligatoire là-bas, c'est Chopin toutes les heures.
C'est La Petite Fadette à Nohant.
Ouais, toutes ces informations sont à retrouver bien sûr sur europe1.fr.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lemergy.
Dans cette partie de Samedi en France sur Europe 1 consacrée au savoir-faire français, voici un exemple sonore. Alors ça nous vient des Pyrénées-Atlantiques. Gavins Clément-Terruis, notre guide du routard à lui tout seul, va nous dire où nous sommes exactement.
Eh bien, je vous invite à aller cet après-midi à Bourdette. Bourdette, c'est un village à 30 minutes de Pau et c'est là que se trouve l'entreprise Daban qui est tenue de père en fils depuis plus de 3 siècles, William.
Entreprise Daban, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent chez les Daban depuis autant d'années?
Eh bien, ils fabriquent ce que l'on appelle des sonailles, comme le son, comme sonner les cloches. Et justement, il s'agit d'une fabrique de cloches. Alors, pas des cloches pour les églises, hein, mais plutôt
plus petites, quoi.
Oui, plus petites. Hein. Là, c'est pour un autre usage. Ce sont les cloches pour les animaux, pour les vaches, les brebis, les chevaux. Et elles ont toutes des formes très, très différentes.
Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est utile, ça, parce que c'est, après tout, le meilleur moyen pour les gardiens de troupeaux pour retrouver leurs bêtes.
C'est quand il y a du brouillard dans la région ou quand elles s'éloignent un peu de l'autre côté de la montagne, on peut les retrouver avec ces cloches. C'est une autre façon aussi de dissuader les prédateurs. Mm-hmm. Alors, la maison Daban dispose de l'un des derniers ateliers de fabrication de sonnailles en France, si ce n'est peut-être le dernier. Mm-hmm. Ils travaillent les plaques de tôle pour fabriquer des cloches brasées.
Ça veut dire brasées.
Brasées. Alors, on va poser la question.
On va lui poser la question.
Notre ami,
parce que je le connais maintenant. Il me fait le coup tous les samedis. Oui, alors je suis brasé.
C'est brasé, vous verrez avec lui. J'ai cherché en plus, mais là j'ai oublié. Bref, c'est des cloches brasées, soudées au four en vase clos. C'est une technique, c'est vraiment particulier.
Ouais.
Et j'ai hâte de savoir ce que veut dire brasé.
Il est là.
Cherché, je vous jure.
Pour en savoir plus, comment il travaille, on va interroger Nicolas Daban, bien sûr, qui appartient à la dixième génération de cette entreprise familiale. Bonjour Nicolas.
Bonjour William.
Alors, elle est fondée par qui à l'époque, cette entreprise? Et est-ce qu'il y en avait beaucoup d'ateliers comme celui-là à cette époque? En quelle année d'ailleurs?
Alors, l'ancêtre qui a commencé est né en 1639.
Oula.
Pour situer, il était sur Orthès. Mais il était à l'époque, il était laboureur forgeron, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était les forgerons des villages qui fabriquaient les sonnailles. En fait, ils fabriquaient tout ce qui était métallique pour les villages, dont les cloches pour les troupeaux. Et en 1789, un de ses descendants, Jean-Bernard Daban, a décidé de quitter la ville d'Orthès et est venu s'installer sur la commune de Nailles. Et c'est à ce moment-là qu'il a fondé la maison Daban.
D'accord. Alors, vous avez obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant. Ça, pour nous, hein, c'est très intéressant parce que avec Gavin, c'est un gage de qualité, mais aussi de transmission. Du coup, ça dure sur des générations.
Ah ben oui, puisque comme vous l'avez dit en préambule, je suis la 10e génération dans ma famille à fabriquer des sonnailles. Donc voilà, on est même entreprise du patrimoine vivant centenaire.
Quand on fabrique une sonnaille, alors on savait pas bien comment expliquer les cloche brasée, soudée au four, en vase clos. Alors, allons-y.
Alors, tout d'abord, une sonnaille, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une plaque de tôle que l'on va faire. On va faire comme une boîte. On va faire comme une boîte métallique. Et on va façonner la pièce à froid. On va lui donner sa forme définitive. Et ensuite, on va la préparer pour la braser. Alors, le brasage, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce que l'on va faire, nous allons souder la pièce et on va faire une métallisation. C'est-à-dire, on va créer un nouveau métal à partir du fer qui compose la pièce. Et on va faire un alliage, on va l'allier avec du laiton.
Laiton. Mais pour que ça soit sonore, pour que ça sonne bien, il faut faire quelque chose de particulier.
C'est le brasage, justement. Alors, il y a le façonnage. Le façonnage, c'est-à-dire la forme que l'on va donner à la pièce, va jouer sur le son final.
Ouais.
Mais c'est surtout le fait de passer la pièce au four qui va permettre de faire sonner la pièce. En fait, qu'est-ce que l'on va faire ? Quand on va façonner la pièce, vous allez avoir la pièce qui va être en 3 ou 5 morceaux en fonction des modèles. Et le fait de les passer au four, de les braser, le laiton va rentrer en fusion et va se répartir sur l'intégralité. Il va recouvrir l'intégralité de la pièce à l'intérieur et à l'extérieur. Et il va même pénétrer la tôle. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste faire que plaquer. Et en refroidissant, le laiton va se retrouver piégé dans l'acier, dans la tôle, et il va rendre la pièce homogène, ce qui fait qu'il va lui donner une caisse de résonance.
Plusieurs questions. D'abord, elles ont quelle taille vos cloches ? Ça va de quelle taille jusqu'à quelle taille ?
De 4,5 cm pour les plus petites.
Oh. Ah bon ?
À 50 cm pour la plus grosse.
D'accord. Et je suppose qu'elles n'ont pas toutes le même son.
Toutes les pièces que l'on va fabriquer auront un son différent.
Différent ?
Ah oui, oui. Toutes les pièces, même dans les pièces de même taille, il va falloir que nous fassions des pièces avec des sons différents. Parce qu'il faut que chaque éleveur puisse retrouver leur bête.
Non. Parce que l'éleveur, il est là, il est dans la montagne, il grimpe là avec les brebis, j'en sais rien. Mais ce qu'il entend, c'est le son de ses brebis, mais ce qu'il entend là-bas, c'est les brebis du voisin.
Exactement. C'est pour ça qu'il va pouvoir savoir, il va pouvoir situer où se trouve son troupeau, rien qu'à l'oreille. Par rapport au son des sonnailles. C'est pour ça que quand ils les choisissent, quand ils les achètent, ils vont les choisir. Ils ne vont pas prendre les sonnailles de manière arbitraire. Ils vont vraiment choisir pour que les sons... Alors, ils ne vont pas prendre des notes précises, mais ils vont essayer d'avoir une harmonie dans le troupeau. Ils vont créer leur propre harmonie, ce qui leur permettra après de retrouver leur bête plus facilement.
Donc, c'est-à-dire que dans un même troupeau, tous les animaux ont à peu près le même son quand ils bougent.
Pas forcément le même son, mais disons qu'il va falloir que ça soit harmonieux. Donc en fait, ils vont jouer sur les tailles des pièces.
Parce qu'en plus, ils sont musiciens, quoi.
Ils créent leur propre orchestre.
Ah ouais. D'accord. Mais elles sont au courant, les brebis, qu'elles sont, elles sont des artistes, quoi.
Ça, je ne sais pas, mais par contre, je peux vous dire que certaines bêtes sont très fières des pièces qu'elles possèdent. Ça, oui.
Mais alors, on m'a dit que vous leur donnez des noms, c'est vrai ça ? Pas aux brebis, quoique, mais aux cloches, c'est vrai ?
Disons que c'est plus facile pour nous après, vu qu'on a 88 tailles différentes réparties sur une dizaine de familles de modèles, pour savoir ce que veut le client. Alors oui, effectivement, chaque modèle va avoir un nom spécifique pour savoir en fait ce que souhaite le client, tout simplement.
C'est quoi les noms, par exemple ?
Alors, par exemple, pour les vaches, il va y avoir trois noms. Alors, il y en a une qu'on appelle la métal, parce qu'en fait, ça vient du Béarnais, parce qu'à l'époque, ils appelaient ça l'oumétau. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre modèle qui c'est le modèle bordelais parce qu'en fait c'était des pièces qui étaient utilisées en région bordelaise et en Haute-Lande. Donc c'est pour ça qu'on leur a donné ce nom. Et le dernier, ce sont les quartissos, puisqu'en fait c'était des modèles qui étaient utilisés en Espagne. Donc voilà, ça a donné le nom espagnol.
Ah
pour
dites-moi les sonnailles françaises de chez vous là, vous en vendez à des éleveurs, je sais pas, moi espagnols, italiens ou autres ?
Effectivement, nous avons des nos sonnailles, on peut les trouver en Espagne, en Italie. Ça, c'est pour le bétail. Pour les chiens de chasse, on peut les trouver en Grèce aussi. Oui.
Si par hasard, vous allez en Espagne et vous vous baladez dans la campagne et tout d'un coup, vous entendez un son, vous dites « Ah, ça, c'est chez moi ».
Oui, après, il y a des fabricants espagnols aussi, donc il y a aussi...
Bon.
Mais bon, c'est vrai qu'on arrive quand même à savoir si les pièces viennent de chez nous ou pas.
C'est marrant, ça. Quand on vient dans votre atelier, on peut vous voir en train de travailler, parce que j'ai entendu là, derrière vous, vous êtes dans l'atelier, là.
Ben, je suis à côté de l'atelier, je suis dans le bureau, mais bon, effectivement, ça donne sur l'atelier, donc effectivement, on entend les sonnailles quand on les met à son et quand on les fabrique, oui, on entend les coups de marteau. Alors, effectivement, oui, alors, normalement, oui, lors des visites, vous pouvez voir la fabrication d'une sonnaille en direct. Voilà. Bon, par contre, là, à l'heure actuelle, avec le contexte actuel, on a
spécial.
Été malheureusement obligé d'annuler les visites, mais nous espérons pouvoir les remettre très rapidement.
D'accord.
Voilà. Mais effectivement, oui, là, par contre, après, lors des visites, oui, ça, c'est une étape que vous verrez obligatoirement, c'est la fabrication d'une pièce en direct.
D'accord. Quand vous dites on les met à son, c'est ça ce que vous avez dit ?
Oui, exact.
Mettre à
son. Alors, c'est-à-dire, une fois que les pièces sortent du four,
oui.
Il va falloir qu'on affine le son pour qu'elles aient le son définitif. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà gommer les déformations qu'il y a pu y avoir lors du passage au four, parce que le four chauffe entre 900 et 1100 degrés entre le début et la fin de la journée. Donc forcément, vu ces températures, la tôle va se déformer. Donc on va enlever toutes ces déformations, et ensuite, nous allons affiner le son en jouant sur l'épaisseur de la tôle et sur la forme de la pièce.
Je peux vous poser une petite question. C'est des souvenirs personnels d'arrivée de course de ski avec les spectateurs qui agitent des petites clochettes. Ce sont des sonnailles ?
Alors, il y en a certaines qui... Il y a effectivement certaines sonnailles. Ouais. Après, il y a aussi des cloches en bronze. Pour faire le distinguo entre les cloches qui sont en bronze, qui sont coulées, et nos sonnailles, puisque nous, c'est de la tôle et du laiton. C'est un alliage de tôle et de laiton.
Ah, d'accord. Eh bien, j'en ai appris des trucs, là, aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup, Nicolas Daban. Vous saluerez tous les membres de votre famille. Voilà.
Merci, William.
Merci, bon après-midi. Au revoir.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Alors, comment on fait pour visiter cette belle entreprise ?
Eh bien, on va aller visiter la maison Daban quand on pourra le refaire. Mais bientôt, on y croit à cause de cette situation sanitaire. Les visites sont suspendues, mais elles vont reprendre normalement à partir de avril-mai. On pense que ça va repartir. Mais en attendant, vous pouvez passer à la boutique parce qu'on peut aller acheter sa cloche si on veut.
Ah oui, bien sûr.
Donc, on peut aller tout simplement...
Et choisir votre son.
Et choisir son son à Bourdette, dans la maison Daban.
Il a dit ce que je voulais, j'avais parié. Est-ce qu'il va dire son son ?
Moi, je fais tout ce que vous me dites
de faire. Il n'a pas loupé. Et pour faire le plein de produits locaux, alors ?
Eh bien, on va aller à Naï. C'est juste à côté, c'est les jours de marché. On va aller les mardis, vendredis et samedis matin. C'est le rendez-vous de tous les producteurs, petits et gros. Ils descendent spécialement de la montagne. Mmh. Et là, on va pouvoir acheter des fromages, de la salaison, du foie gras. Et il faut avouer qu'il y a quelques conserveries pas mauvaises du tout dans le coin.
Ça, oui.
Marché de Naï, on en profite
pour faire
le plein.
Je vous signale que Naï, ça s'écrit N-A-Y, parce que nous sommes dans la région où effectivement un Y, ça se prononce. Par exemple, si votre nom commence par L-E-Y, on ne dit pas Lé, on devrait dire Lay.
Lay Mergie ?
Ouais.
William Lay Mergie.
Lay, eh oui, bien sûr.
Très bien, on apprend plein de choses dans cette émission.
Oui, ça, c'est pas très...
Si, c'est important.
Mais bon.
William Leimery.
À suivre les confidences de l'acteur et réalisateur Philippe Lachaud. C'est l'heureux auteur de 3 films qui ont, bon, ils ont tous dépassé plus d'un million de spectateurs. Et il nous a confié ses souvenirs d'enfance, en France bien sûr. La sienne, c'est la Picardie, sa région, dans un petit village. Et c'est Daniel Moreau qui l'a rencontré pour nous.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Philippe Lachaud.
Bonjour Daniel.
La France de leur enfance, je crois que vous êtes picard et fier de l'être.
Une grande partie de ma famille habite en Picardie, effectivement. J'y ai jamais vécu, mais j'y allais tous les week-ends depuis mon enfance et j'y vais encore très régulièrement parce que maintenant mes parents habitent là-bas.
Alors on va mettre à l'honneur un petit village qui s'appelle le Wavignies, c'est ça ?
Oui, c'est ça, avec un W. Voilà, c'est un petit village dans l'Oise, à peu près 20 minutes de Beauvais.
Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit dans ce petit village ? Les enfants peuvent s'amuser, c'est la liberté ?
Ah, c'est un tout petit village, voilà, avec une petite boucherie, une petite boulangerie. Moi, je m'amusais à faire du vélo, je jouais au tennis. Quand j'avais personne pour jouer au tennis, je jouais au tennis contre un mur.
Voilà.
Non, j'ai tous mes souvenirs d'enfance. Et même mon oncle aujourd'hui habite dans la maison où était ma grand-mère. Mes parents habitent dans cette maison voisine où depuis très jeune, on appelle ça la maison du bonheur. En fait, parce que depuis mon plus jeune âge, on y fait des fêtes, les Noëls, avec toute la famille, avec tous nos amis. Donc c'est rempli de souvenirs et d'ondes positive.
Alors même si on n'a pas vos souvenirs d'enfance, si on passe dans le coin et dans l'Oise, donc, et près de Wavignies, qu'est-ce qu'il y a à voir ?
Il y a beaucoup de champs, hein. Il y a de belles forêts, voilà, c'est plutôt plat, donc non, moi, en fait, ça me fait énormément de bien quand j'y vais, parce que ça me fait vraiment une coupure avec la vie plutôt parisienne, même si j'habite pas à Paris même, mais il y a vraiment, enfin voilà, dès que j'arrive là-bas, moi, j'ai un sentiment de zénitude incroyable.
Vous dites que ça remplace une séance de yoga, c'est ça, quand on retourne sur la terre de son enfance ?
Exactement, bah oui, parce qu'il y a toute cette bienveillance de ma famille et encore une fois, tous ces souvenirs qui me bercent.
Et si, la ville la plus proche, c'est Beauvais ou...
la grosse ville la plus proche, oui, il y a Breteuil, il y a Amiens, il y a Beauvais, voilà, c'est les villes les plus importantes qui entourent Wavignies. Et il y a une petite ville qui s'appelle Saint-Just-en-Chaussée, qui est voilà, la plus grande ville, parce qu'il y a un gros centre commercial.
Enfin, et donc, c'est les balades dans les champs, c'est ça qu'il faut faire ? Il faut se laisser guider ouais,
voilà,
vent.
C'est ça. Mon père fait beaucoup de marches, il a un club de marche. Voilà, il marche pendant des kilomètres et des heures au milieu des champs, des forêts. Quand j'y vais, ça m'arrive aussi souvent de courir là-bas, de faire mes footings, parce que voilà, il y a pas de pollution, on s'y sent bien.
Très bien. Alors, on se sent bien aussi dans une salle de cinéma quand on va voir vos films, parce que ce sont des cartons à chaque fois. Donc là, le nouveau s'appelle Super-héros malgré lui. Là aussi, dans ces films, j'ai l'impression que vous retrouvez votre âme d'enfant, et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne autant.
En tout cas, sur celui-ci, effectivement, comme j'interprète un espèce de super-héros, même s'il est un petit peu loser, enfant, bon, on s'est tous imaginé un jour ou rêvé d'être un super-héros, et c'est vrai qu'à travers ce film, je réalise un petit peu ce rêve d'enfant.
C'est intéressant de jouer les losers, c'est plus...
en tout cas, quand on fait des comédies, c'est sûr que ça prête plus à rire. On a plus d'empathie pour ces personnages. C'est les rôles que pouvait avoir Pierre Richard à une époque, ou Ben Stiller après dans les comédies américaines. Et du coup, j'aime beaucoup ça.
Et vous avez vraiment constitué une bande. Maintenant, c'est un rendez-vous, quoi. Le nouveau Philippe Lachaud est attendu. Et le nouvel opus de la bande à Fifi, c'est un événement à chaque fois.
C'est très gentil. On n'a pas décidé de créer cette bande. En fait, on était amis avant que de faire du cinéma. Après, c'est vrai que j'avais cette passion très jeune, moi, de faire des films, d'essayer de faire rire les gens. J'ai embarqué un peu mes copains dans cette passion, dans cette aventure. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on vit ça ensemble. Ce qui est assez magique, c'est assez incroyable pour nous.
Mais voilà, donc on retrouve Super Héros malgré lui dans toutes les bonnes salles de cinéma, de Wavignies à Marseille, en passant par Lyon, partout en France. Merci beaucoup, Philippe
Lachaud. Merci, Daniel.
Merci, Philippe. Merci, Daniel. Philippe Lachaud, donc, vous voyez, c'est devenu, ce qu'on est, Daniel l'a répété, la bande à Fifi. Il s'appelle Philippe. Il a travaillé sur Canal+ aussi à l'époque, il a commencé là-bas. C'est devenu une marque. Donc, c'est comme les tuches. Tuche 1, 2, 3, là. Et ça marche très, très bien. C'est l'histoire d'un comédien. Le dernier, la super-héros, malgré lui, c'est un comédien qui est très mauvais, médiocre. Il devient une star de cinéma, ici, en France. Mais pour lui, il a l'impression qu'il est vraiment un super-héros. il prend pas ça du tout pour du cinéma. Alors, il se balade comme ça, mais il dit... Alors, évidemment, ça donne des quiproquos assez drôles.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
En général, dans la dernière partie de cette émission, on vous propose, avec Gavin, Clemente Ruiz et toute l'équipe, de visiter un site de plein air. C'est parfois sportif, pas toujours, mais parfois. Là, c'est tout à fait autre chose. Certes, c'est en plein air, mais vous allez, j'allais dire, assister. Non, vous allez faire une expérience visuelle à l'air libre. Et ça s'appelle, même c'est beaucoup plus chic, hein, ça s'appelle un sentier artistique en nature et ça se situe dans la Meuse. Alors, vous n'avez probablement jamais entendu parler d'un tel site. Vous n'imaginez pas la taille de ce site. Et M. Gavins, Clemente Ruiz, ambassadeur officiel du guide du Routard, de passage dans nos studios,
s'il vous plaît, va
nous dire très précisément où nous sommes, excellent.
Eh bien, mon cher William, on part à Fresnes-aux-Monts. C'est dans la Meuse.
Fresnes, plus loin, au plus loin, Mont.
Alors, c'est plusieurs villages. On peut commencer par Fresnes-aux-Monts, je vais vous expliquer. On est à 40 minutes au sud de Verdun. Mm-hmm. Et c'est là que se trouve Vent des Forêts. Alors, Vent des Forêts, c'est quoi? C'est un projet artistique complètement fou, qui a germé dans la tête de François Davin. C'est un sculpteur à la fin des années 90. Mm-hmm. Il a l'idée de proposer à ses collègues artistes du monde entier de disperser leurs œuvres sur 5000 hectares d'un immense massif forestier réparti sur 6 petits villages autour.
C'est incroyable, mais c'est fou. Ça a marché, ça, assez vite.
Parce qu'il faut
obtenir l'accord, je suppose.
C'est ça qui est bien, c'est que toutes les communes. Ça a pris une ampleur telle que.
En plus, des artistes.
Tout le monde a été mobilisé, ouais.
Tout le monde accepte, je vous mets une œuvre et salut.
Les artistes, les autorités locales, tout le monde a joué le jeu. Et ce sont plus de 200 œuvres qui ont été réparties sur cette période-là.
Ouais.
Il en reste plus d'une centaine, plus de 150 qui sont encore là. Mmh. Parce que c'est assez éphémère, il y en a qui viennent, qui repartent, elles sont réparties sur 45 km, imaginez, de tracés forestiers. Alors c'était un vrai pari, vous l'avez dit, une utopie, on peut le dire aussi. Et toutes ces œuvres, éphémères ou pas, font maintenant quelque part partie du paysage, c'est ça qui est intéressant. Mmh. C'est l'art contemporain qui s'intègre dans la nature, c'est la grève de l'art contemporain en plein air, qui a pris, tout simplement.
Oui, il faut préciser, il s'agit d'art contemporain, de façon à ce que vous ne soyez pas surpris. Oui, mais ça s'intègre pas mal avec la nature. Alors, nous sommes en ligne avec Pascal Lyonnais pour avoir de plus amples renseignements sur ce Vent des Forêts. Bonjour, Pascal.
Bonjour. Bonjour.
Alors, ce projet date de quand et je suppose que ça a été difficile, comme je le disais il y a un instant, de convaincre tout le monde, à la fois les communes sur lesquelles sont posées ces œuvres et les artistes pour qu'ils laissent l'œuvre et pourquoi après tout.
Alors non, ça a été très très simple.
Non.
Parce que, non mais je vous promets, c'est vraiment un projet unique, simple,
oui.
Qui parle de l'art d'aujourd'hui tout simplement.
Oui.
Donc
mmh.
Ça veut dire qu'il y avait une attente... De fraternité, d'accueillir l'autre. Avant tout, c'était l'idée d'accueillir l'artiste qui vient de loin, de Corée, de Chine, de Papeete.
Oui.
Vous voyez, c'est un voyage. En fait, on est au département de la Meuse et c'était vraiment accueillir chez soi et créer et permettre la création d'œuvres inédites.
D'accord. C'est vous qui avez été au début, vous, pas vous personnellement, mais les créateurs, vous avez été chercher des artistes ou vous avez dit lancer une sorte d'appel d'offres. Si vous avez des œuvres, si vous voulez bien nous les prêter, venez. Comment ça s'est passé?
En fait, les œuvres sont créées pour le lieu. Elles ne sont pas prêtées. Si, voilà.
Ah.
Et donc ça veut dire que l'artiste, alors notre métier, enfin moi c'est vraiment mon métier d'aller chercher les artistes, de les repérer,
oui.
De bien connaître leurs recherches, leurs travaux et leurs envies. Et à partir de là, l'idée, c'est vraiment de créer des relations entre l'artiste, un artisan, un maître verrier, une scierie, une carrière de pierre, vous voyez, de créer des binômes et de se dire, là, pour tel travail, telle œuvre, on va privilégier la pierre, le verre, le bois, voilà. Et donc, les productions, ce qui est donné à voir au public le long des sentiers, le long de ces sentiers de randonnée, est quelque chose d'unique et de fait sur mesure.
Ah oui.
Donc les artistes, voilà.
C'est quasiment collectif, je veux dire. Il y a d'abord votre goût pour un artiste, ensuite vous travaillez avec lui, qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous, puis après il y a celui qui le fabrique. C'est ça, vous êtes plusieurs, au fond.
Alors, l'idée, c'est mon goût, c'est plutôt l'idée de se laisser surprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce territoire, c'est un territoire de surprise, c'est un territoire audacieux qui, depuis 1997, accueille vraiment chez l'habitant des artistes. Vous voyez, l'artiste est logé chez le chasseur.
Ouais. Il vient sur place pour le fabriquer, bien sûr.
Exactement. Donc c'est long. Ça peut demander un an.
C'est
des processus longs. Et en fait, ça veut dire que ce qui est créé, c'est du sur-mesure. Du sur-mesure parce que ça permet du lien, de la convivialité. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un projet totalement unique et surprenant.
C'est pour ça qu'on vous a appelé. Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'artiste coréen, par exemple, il vient habiter dans la région, il reste le temps qu'il faut. Il laisse l'œuvre ensuite et après, l'œuvre peut repartir dans son pays éventuellement.
Non, après il y a des souvenirs qui repartent. Mais l'œuvre, elle est là, elle est là, et parfois elle est là depuis 20 ans, voilà. Bah oui, parce que ça, tout dépend du choix des matériaux. Si vous utilisez un bois, parfois le bois va pourrir au bout de un an. Ouais. Et si vous utilisez une pierre, ici on est sur un territoire où il y a des très très belles carrières de pierre calcaire. Vous voyez, avec lesquelles on a construit énormément de bâtiments publics. Bon, bah évidemment, pour les artistes, c'est inouï, toutes ces carrières de pierre. Et on a des œuvres qui sont en pierre calcaire. Et donc, bien sûr, depuis 20 ans, elles sont là.
D'accord. Est-ce que l'idée, c'est aussi de prendre la nature comme sujet pour que l'œuvre s'y intègre le mieux possible ou pas du tout?
Oui, parce qu'en fait, Vendée-Forêt, c'est avant tout une promenade. 45 km de sentier. 7 boucles de promenade, on traverse les villages, les champs, la forêt, voilà.
Ah oui.
Donc évidemment, la nature, elle est tout, le paysage est toujours changeant et présent, saisonnier. Donc évidemment, l'artiste, c'est comme un théâtre, cette forêt de pins, d'épicéas, chênes, de frênes, vous voyez, et des couleurs. Et évidemment, tout ça, l'œuvre, elle n'est pas mise par hasard. Elle est extrêmement pensée pour des lieux spécifiques et créée avant tout pour le public de l'étonnement, de la surprise, de l'émerveillement, voilà.
Alors, quand on se déplace sur un territoire qui est aussi grand que ça, ça doit prendre un peu de temps, on n'est pas obligé de tout faire, évidemment, mais on se déplace à pied, c'est aussi une manière de... C'est une grande balade, une grande randonnée où on peut prendre un vélo, je ne sais pas.
Vélo, marche, mais c'est un bol d'air inouï, donc ça veut dire vous choisissez, hein. Ça peut être le VTT, mais quelque part, les boucles font 3 km ou 15 km.
Ouais, très bien.
Donc évidemment, 15 km, on prend son pique-nique, son bâton, on y va en famille, au beau jour, et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est une aventure à la fois simple, et puis les œuvres sont comme des surprises, tout simplement.
Combien il y en a là, actuellement sur place? J'ai dit 200, il y en a peut-être moins.
Alors, c'est un peu moins parce qu'il y a à peu près 250 artistes qui ont été invités depuis le début.
Ouais.
Mais aujourd'hui, sur place, c'est à peu près plus de 130 œuvres.
Ah oui, 130.
Donc, ils peuvent être petites, monumentales, en bois, en verre. Voilà, différentes typologies de matériaux. Certaines sont là depuis 23 ans et d'autres vont être faites. Là, on est en train d'y travailler.
Ah oui ?
Là, en ce moment, certains artistes viennent pour rencontrer un artisan, un chaudronnier, une carrière. Vous voyez ce que je veux dire ?
Non, mais c'est bien pour les artisans locaux. Ça leur a permis peut-être de prolonger leur métier alors que ce n'était pas évident, je suppose, non ?
Oh, ils ont du travail, mais ça veut dire qu'on vient, chambouler un peu leur travail. On leur propose quelque chose à un pas de côté, quoi.
Oui,
voilà, avec le sourire.
Bien sûr. Non, c'est très original et c'est spectaculaire. Merci, c'est une excellente idée. Merci beaucoup, Pascal, pour cette visite rapide. Je vous propose, mesdames, messieurs, d'aller voir ces sortes de musées à ciel ouvert qui est une promenade artistique. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci.
Merci à vous.
Alors, Gavin, on va où très exactement pour voir le Vendée-Forêt?
On va pouvoir aller on peut commencer à Fresnes-Aumont, par exemple, mais il y a plein d'autres entrées. Parmi les villages, les petits villages autour, c'est gratuit, c'est toute l'année, c'est quand on veut. Prévoyez quand même des bonnes chaussures, des pantalons longs, et puis de l'eau, une petite gourde. Allez sur le site internet de Vendée-Forêt, je mets ça bien sûr sur le site europe1.fr. Ils vous donnent les itinéraires, donc ça c'est pas mal, vous pouvez imprimer avant de partir. Ou alors sur votre smartphone, il n'y a pas de souci, c'est Vendée-Forêt et vous pourrez aller vous promener, découvrir, humer l'air de là.
Non, mais c'est petit, ça fait 3 km, la grande c'est 15, vous avez le droit d'en faire encore plus.
Humer l'air, humer l'art, c'est pas mal ça.
Humer l'air, humer l'art, c'est pas
mal. Ça vous plaît?
Non, vous pouvez la garder, ça.
Je note.
Ouais, vous pouvez lui prêter au. comment s'appelle-t-il? Pascal.
Ah, Pascal.
On peut dormir dans le coin, manger?
Bien sûr. Alors là, je vous propose de dormir dans un endroit tout aussi insolite, c'est lié au projet, de Vendée-Forêt. Ça s'appelle des maisons sylvestres. Ça a été imaginé par la designeuse française Nathalie Crassé.
Oui.
J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle a créé le nichoir et la noisette. Alors, ce sont deux cabanes en bois très simples, complètement immergées dans la forêt, avec des formes très originales. On pourrait presque croire que c'est une œuvre d'art sur le parcours. Il faut compter environ 100 euros par nuit. C'est sans sanitaire. Il y a juste un générique d'eau pour, si vous avez des toilettes sèches, si vous avez prévu ça pour la Saint-Valentin oubliée, mais pour une expérience, ça peut être sympa.
Oh, le détail. Très bien. Bon, on tâchera d'y aller une autre
les
fois.
Les maisons sylvestres de Matagny-Crassé, près du Vent des ouais. Forêts dans la Meuse.
Merci beaucoup. On n'a pas parlé de sous. Hein. On n'a pas dit est-ce que l'œuvre, elle est payante, à qui achète.
Nous, bon, on vient juste voir. Hein. On vient juste se promener.
Oui, nous, oui, en tout cas.
On vient juste se promener.
Allez, en attendant, pour recevoir toutes les infos sur Europe1.fr. Alors, on va terminer, comme d'habitude, avec un récapitulatif de ce que l'on vous a présenté comme site aujourd'hui.
Alors, nous avons fait un voyage de l'autre côté de l'Atlantique tout en restant à Auch, dans le Gers, au Musée des Amériques. Nous avons assisté ensuite à une représentation du théâtre de marionnettes de Georges Sand.
Qui vient d'être rénové. Hein.
Exactement.
Et on peut visiter la maison de l'écrivain.
De Georges et aller se recueillir sur sa tombe. Donc ça, c'est à Nohant et c'était dans l'Indre. Nous avons aussi sonné les cloches, William, grâce au sonail de la maison d'Aban. C'était dans les Pyrénées-Atlantiques.
Je signale parce que si vous avez écouté l'émission tout à l'heure, j'ai oublié de dire que les petites sonailles, les petites cloches, elles étaient sculptées. On faisait des dessins dessus selon le désir de l'éleveur qui achète
le nom, tout simplement.
On peut
mettre son
nom, des petits dessins, parce que comme tous les animaux, voilà,
savoir à qui elles appartiennent.
Oui, voilà.
Et pour finir, on vient de découvrir de l'art dans les forêts de la Meuse grâce à l'expérience artistique du Vent des Forêts.
Vent des Forêts, voilà. Merci beaucoup. Pour terminer, comme chaque semaine, alors un livre, une expo, un film qui parle de la France.
Ah oui. Alors aujourd'hui, un film qui me tient à cœur, ça s'appelle Compagnon, un film de François Favra avec Agnès Jaoui et Pio Marmaille. Alors c'est une réelle plongée dans le monde des compagnons du devoir. C'est assez audacieux, je trouve. C'est Agnès Jaoui qui joue la responsable de chantier et elle va prendre une jeune fille en réinsertion sous son aile, elle s'appelle Naël, elle est jouée par Naja Ben Saïd et elle lui présente Paul, compagnon vitrailliste et grâce à eux, Naël va apprendre ces métiers qui se transmettent de génération en génération grâce aux compagnons et qui obéissent à des règles assez strictes mais essentielles pour avancer dans la vie. Il y a un joli message derrière tout ça, c'est un regard original sur les fameux compagnons du devoir et c'est un très beau portrait,
souvent,
on n'en parle pas assez et je trouve que c'est audacieux. Ça s'appelle Compagnon et ça sort le 23 février en salle et c'est un film Europe 1.
Ah, très bien. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Marie Jacquet, Christophe Pierrot, Gavis Clémenté-Ruiz, Daniel Bourreau et Morgane Biquillet. En ce qui nous concerne, on se retrouve samedi prochain sur Europe 1, bien sûr, à 15h pour découvrir 4 nouveaux sites dans 4 régions françaises. Donc, à la semaine prochaine à 15h.